Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs, l'émission où vous avez la parole sur Africa Radio pour débattre et commenter l'actualité. Aujourd'hui c'est vendredi, c'est donc la libre antenne, c'est vous qui faites le sommaire, c'est vous qui choisissez le sujet sur lequel vous souhaitez vous exprimer. Nous reviendrons notamment sur l'acquittement définitif de Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudet par la CPI. Nous parlerons également du Niger, hein, où doit être investi aujourd'hui Mohamed Bazoum. Et nous parlerons également des accusations de bavure contre l'armée française au Mali. Pour participer, réagir, commenter le sujet de votre choix, appelez-nous dès maintenant au 33 1 55 07 58 00. 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également nous écrire sur WhatsApp au 33 7 66 19 77 69. 33 7 66 19 77 69. Mais d'abord, sans plus tarder, nous ouvrons cette émission avec vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Alban, bonjour. Gbagbo n'a tué personne ou tenu des propos dans ce sens. Il doit rentrer dans son pays et donner sa contribution pour la paix. Les charges contre lui n'ayant pas abouti. Les 3000 morts officiels l'ont été par tous les belligérants. Peut-on oublier ou pardonner? Si le camp Ouattara devait être poursuivi pour les mêmes charges que celles du camp de Gbagbo, à savoir la mise en œuvre coordonnée, politique aboutissant à une attaque systématique des civils sympathisants de Ouattara, alors ils seront sans doute acquittés. Ces assorfés de pouvoir, Alassane et Gbagbo ont utilisé des mercenaires pour tuer les Ivoiriens.
Amis du GDA, bonjour. J'entends toutes les interventions concernant la Côte d'Ivoire. Bon, nous tous, Africains, sommes concernés par ce pays. Bon, c'est un pays africain. Cependant, nous remarquons vraiment des gens qui ne tiennent jamais des propos apaisants. Hein? Je voudrais plus particulièrement citer Idriss. Idriss, il dit toujours Ouattara. Vraiment, il n'a pour Dieu que Ouattara. Il ne peut pas mettre un peu d'eau dans son vin. C'est vraiment. Mais est-ce que comme ça, vous pouvez construire un pays? Monsieur Idriss, vous pouvez construire un pays comme ça? Tu dis toujours, non, mais nous, on a perdu ceci. Mais qui n'a pas perdu? On a perdu de deux côtés. Maintenant, on parle de la réconciliation. Vous avez une dent contre M. Gbagbo, contre son camp. Vous n'avez jamais réalisé qu'il y a deux camps qui se sont battus. Jamais, aucune fois. Jamais. Quand les gens se battent, quand on doit les mettre en prison ou on doit les juger, les deux doivent être jugés, entendre leur version.
Bonjour Madame Stéphanie et bonjour très chères auditrices et auditeurs d'Africa Radio. C'est votre frère Monsieur Paul Wemo, le porte-parole de la résistance congolaise de France. Je profite de votre antenne pour présenter mes félicitations à Madame Candide Okeke, qui a été désignée comme présidente AI de la PARECO. Et je profite de cette occasion pour éclaircir un peu le peuple congolais, parce que la désignation de Madame Candide Okeke comme présidente de la PARECO est un signe fort pour nos dames, nos filles, nos mamans, afin qu'ils puissent comprendre qu'en République démocratique du Congo, c'est la femme qui est visée, c'est la femme qui est violée tous les jours. Et aujourd'hui, à la tête de la PARECO, c'est une femme, et je demande à toutes les femmes du Congo de soutenir cette brave dame, d'être avec elle, et au nom de la coordination de la résistance congolaise de France, que je suis le porte-parole, j'apporte, ou nous apportons notre soutien à cette dame, nous sommes avec elle. Elle n'est pas seule, la lutte continue, Monsieur Honoré Nguanda est parti, mais la lutte continue parce qu'il nous a laissé toutes les armes pour que nous puissions nous défendre et continuer cette lutte jusqu'à la libération de notre pays, la République a démocratisée du Congo.
Bonjour amis des GDA, c'est M. Djabi. Je vais parler aujourd'hui de Niger. Vous voyez le président Niger qui va investir aujourd'hui. Vous savez très bien que les populations le refusent catégoriquement. Ils n'en veulent pas ce président-là. Donc on va faire des coups d'État, on va dire que les Africains, ils ont l'habitude de faire des coups d'État. Niger a l'habitude de faire des coups d'État. Alors que les populations rejettent catégoriquement ce président. Les populations n'en veulent pas, mais on impose des populations. Est-ce que c'est normal? Je demande à CDAO de dire à ce président-là de ne pas investir parce que le Niger n'en veut pas de ce président-là. Amis des Judéens, je demande à tous les Africains d'être attentifs que ce président-là, que le Niger n'en veut pas, il va y avoir des coups d'État. Ce président-là, il ne restera pas longtemps parce qu'on connaît le Niger. Quand il commence, il n'arrête pas. Merci, amis des Judéens, c'est M. Djabi.
Bonjour, Madame Hartmann. Bonjour, les amis des Judéens, le peuple africain, tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo et les RCK, l'investiture du nouveau président nigérien aujourd'hui à Niamey, c'est une victoire pour la démocratie africaine. Ce que les Africains, nous sommes en train de demander des changements de personnes à la tête du pays. Si tu as fait des mandats, ça fait aussi bien devant la population africaine et la population de Niger. Vive la démocratie, vive l'Afrique et la jeunesse africaine. Nous allons imposer la démocratie dans notre continent par le peuple citoyen africain, les filles et les fils de l'Afrique. Nous croyons à la démocratie partout et les dictateurs ne seront plus en Afrique. Aïko Mopongi, résistant combattant, RCK.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Nous commençons sans plus tarder cette libre antenne 33 1 55 07 58 00 pour participer. Dans un instant, nous parlerons du Niger et de l'acquittement en définitif de Laurent Gbagbo et de Charles Plégouté en Côte d'Ivoire. Mais avant ça, on accueille Serge. Serge, bonjour.
Maintenant.
Bonjour Serge, bienvenue dans le journal des auditeurs. Alors vous vouliez revenir vous sur une actualité française, la polémique autour des propos d'Audrey Pulvar, tête de liste aux élections régionales en France pour le Parti Socialiste. Elle a notamment déclaré en réaction au syndicat étudiant UNEF qui affirmait organiser des réunions non mixtes. Audrey Pulvar a déclaré qu'il fallait parfois faire taire les Blancs, que les Blancs se taisent dans certaines réunions, notamment consacrées au racisme. C'est bien ça, Serge ?
Oui, mais seulement à la seule différence, Madame Stéphanie, c'est d'ailleurs pour ça que je vous appelle, à la seule différence que les propos de Madame Pulvar ont été sortis de leur contexte. Ce que je n'apprécie pas actuellement et cette odeur en fait qui se dégage à chaque fois que nous avons des élections qui approchent, on a toujours, vous le remarquerez toujours en France, on vous sortira toujours le Front National. Aujourd'hui, regardez les télévisions françaises. On nous invite les gens du Front National tout le temps, alors que depuis un moment, on n'entendait plus parler. Et comme par hasard, oui, le Front National va arriver au pouvoir si on ne fait pas attention. En fait, j'ai compris en France que c'est toute une politique. C'est parce qu'en fait, on sait très bien que à chaque fois que vous avez le Front National qui se retrouve au deuxième tour avec un autre candidat, entre parenthèses, républicain, on finira par toujours voter le candidat républicain. Donc, ce qui fait que moi, je pense que c'est délibéré. Revenons sur Audrey Pulvar. Moi, je comprends très bien ce qui se passe. C'est ce que je viens de vous expliquer. C'est tout simplement parce qu'on veut la mettre déjà de côté, de part, même si on le dit pas, de part sa couleur de peau, parce que ça, on le dit jamais officiellement, mais vous avez vu comment les gens se sont, certaines personnes se sont levées contre cette dame parce qu'elle a dit quelque chose qui existe en France. Vous avez, je vous donne des exemples palpables, donc c'est-à-dire que vous avez par exemple des anonymes, comment on les appelle, les alcooliques anonymes qui se regroupent entre eux, hein. Est-ce qu'on en a fait un problème ? Vous avez des femmes, quand les femmes font leur combat, elles se réunissent qu'entre elles.
C'est ce que disait d'ailleurs Laure Adler, expliquait que lors des réunions, des premières réunions du MLF, le mouvement féministe en France, dans les années 70, c'était des réunions interdites aux hommes.
Exactement, ça a toujours existé, mais je pense que ce qu'elle a voulu, en fait, je ne suis même pas là pour défendre, parce qu'elle est assez grande pour se défendre, mais c'est qui m'énerve. C'est-à-dire que c'est faire toujours croire aux gens que voilà, cette dame est raciste. Et quand on voit bien les origines de Pulvar, je vais dire, regardez cette dame. Vous voyez bien que elle a, excusez-moi l'expression, hein, même si ça ne veut rien dire, mais on le dit tout le temps, elle a du sang un peu de partout. Donc il y a un mélange chez cette dame. Je ne vois pas comment cette dame peut être raciste. Ce que moi je voudrais dire aujourd'hui, c'est que il faut aussi que la communauté, quand je dis la, moi j'aime pas le terme communauté. Hein, moi je pense qu'on fait partie d'une seule espèce et surtout d'une même communauté, contrairement à ce que les gens veulent faire croire. Mais je pense qu'il faut que les gens se lèvent lorsqu'on commence à parler de ce genre. La dame, elle a bien dit. Elle a dit effectivement, lorsque vous êtes face à des gens qui ont du mal à parler, vous voyez des femmes qui sont maltraitées, qui à la limite vont mieux se sentir en parlant à une autre dame, à une autre femme. C'est tout à fait normal, on ne peut pas condamner ces gens.
Pour conclure, Serge, moi si je comprends bien ce que vous dites, hein, vous dites finalement, voilà, la polémique hein, suscitée par ces propos relève davantage du racisme hein, que d'un véritable différent. Merci beaucoup Serge d'avoir ouvert hein, cette libre antenne avec ce sujet très franco-français, il faut le dire, hein, où ces sujets hein, font beaucoup polémique en France. Merci beaucoup Serge, bonne journée à vous. 33 1 55 07 58 00. Dans un instant, on reviendra sur l'actualité ivoirienne. Avant ça, on accueille Aruna. Bonjour.
Bonjour Stéphanie. Bonjour les auditeurs.
Aruna, bienvenue. Vous êtes en Allemagne. J'imagine que vous vouliez parler peut-être du Niger. C'est aujourd'hui hein, que Mohamed Bazoum doit être investi 2 jours après une tentative de coup d'État.
Oui, tout à fait, Stéphanie. C'est juste pour vous dire que en tout cas, la position, selon ce que j'ai appris, la position de l'opposition, elle reste. Hein. Nous avons, c'est une victoire qui n'est pas des Nigériens. C'est clair et net, j'ai l'habitude de dire ça, c'est une victoire de la France. Et Stéphanie, nous avons vu cette guerre médiatique contre l'opposition qui est en train de se, qui a commencé depuis longtemps et qui continue d'être faite. Nous voyons même les journalistes qui font des interviews seulement d'un parti, d'un côté. Dans les rues, ils n'interviennent pas pour demander aussi du côté de l'opposition. Oui, Stéphanie.
Donc pour vous, Mohamed Bazoum est le candidat des journalistes, c'est ça?
C'est clair, c'est une guerre médiatique qui a été faite, ou bien qui continue d'être faite, comme je l'ai dit, contre l'opposition du Niger. Et tout, c'est la réalité du Niger. Les Nigériens ont voté Maman Ousmane. Vous voyez. Donc, en tout cas, c'est tout ce que moi, je veux dire aujourd'hui. Le président des Nigériens, c'est Maman Ousmane. Merci, Stéphanie.
Merci, Aruna. Bonne journée en Allemagne. Effectivement, Maman Ousmane hein, qui continue de revendiquer la victoire. On parle tout de suite de l'acquittement définitif de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire avec Karim. Karim, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, bonjour auditeur d'Africa Radio. En fait, je voulais intervenir sur ce sujet parce que c'était le sujet d'hier. Ben, bon, d'abord, je me félicite que Laurent Gbagbo soit acquitté avec Charles Blé Goudé. Donc, ça veut dire que s'ils sont acquittés, ça veut dire qu'on ne leur reproche rien. Et de deux, en fait, je voulais en fait aujourd'hui prendre en fait position pour le président Ouattara, parce que aujourd'hui on pense que l'acquittement de Laurent Gbagbo, c'est-à-dire en fait c'est délégitimer en fait le braquage électoral qu'il a voulu faire à l'époque en 2010, et c'est archi faux. Et si aujourd'hui il a été acquitté, on s'en félicite, mais c'était aussi l'enjeu politique aussi, c'était l'objectif du RHDP, c'est-à-dire écarter ces deux personnes-là du pouvoir et a en fait affaibli le FPI. Donc aujourd'hui, Laurent Gbagbo, étant donné qu'il a passé 10 ans hors du territoire ivoirien, donc je ne vois pas comment est-ce qu'aujourd'hui il peut reconstruire le FPI en 5 ans pour pouvoir en fait conquérir le pouvoir, sachant qu'il y a des divisions au sein du FPI, et lui-même il ne sera pas éligible aux prochaines élections puisque la constitution va être modifiée au niveau de la limitation d'âge, et ça a été une promesse de campagne du président Ouattara. Donc je pense que il ferait mieux peut-être d'avoir un discours allant dans le sens de la réconciliation ainsi que ses partisans, parce que remettre Laurent Gbagbo encore en selle pour conquérir le pouvoir, je pense que c'est vraiment oublier le passé et puis.
Si je vous entends bien, voilà. Karim, finalement, ce que vous dites, c'est que voilà, le président Laurent Gbagbo n'a pas d'avenir dans l'opposition politique, c'est ça?
Non, il a l'avenir dans l'opposition politique, c'est-à-dire que en traçant aujourd'hui.
Mais en tant que conseiller, peut-être pas.
Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui, les trois personnes, Ouattara, Gbagbo, Bédié, c'est une génération qui est en fin de cycle, c'est fini. En fait, aujourd'hui, pour moi, c'est fini. 2025, on n'entendra plus parler de ces trois personnes-là. Donc, ça a été un peu, je veux dire qu'aujourd'hui, c'est une bataille qui a été gagnée sur le plan politique par le RHDP. Et même si Laurent Gbagbo a gagné la bataille judiciaire, la bataille politique a été gagnée par le RHDP. Et ça, c'était notre objectif. Donc aujourd'hui, on continue à aller à la réconciliation, on continue au développement du pays. Donc je pense qu'il doit emboîter le pas.
Karim, comment expliquez-vous que le RHDP n'ait pas encore réagi, encore moins le gouvernement ivoirien?
Ben en fait, je suis pas au cœur du pouvoir RHDP, mais je peux interpréter ça dans le sens où bon aujourd'hui la balle est dans leur camp, hein, c'est de pouvoir trouver un calendrier pour le retour de Gbagbo. Donc s'ils réagissent, la question va être forcément posée. Donc je pense qu'ils sont en train de faire des taxations pour pouvoir en fait mettre tout ça en place et puis faire un communiqué et puis en parler officiellement pour dire ben écoute, il a ses passeports. Oui. Et comme le président Ouattara l'avait déjà pris comme engagement pour dire que s'il est acquitté par la CPI, lui, il va pas s'opposer à un retour de Laurent Gbagbo. Donc je pense que la balle est dans son camp.
Merci Karim. D'ailleurs, hein, hier, hein, lors d'une interview, hein, Charles Blégoudé a demandé au gouvernement ivoirien de faire un geste, hein, notamment une grâce ou une amnistie. On rappelle que Charles Blégoudé et Laurent Gbagbo sont condamnés, hein, par la justice ivoirienne à 20 ans de prison. L'un pour complicité de meurtre, l'autre pour le braquage de la BCEAO. Merci beaucoup Karim, bonne journée à vous. 33 1 55 07 58 00, c'est la libre antenne. J'informe Amadou que je ne vais pas le prendre. On reste sur l'actualité ivoirienne avec Mohamed. Mohamed, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Mohamed, bienvenue dans le journal des auditeurs.
Merci, vous allez bien?
Ça va très bien, et vous-même?
Oui, ça va, ça va.
Bon. Mohamed, vous avez entendu Karim, hein, qui dit finalement, voilà, c'est une victoire. Laurent Gbagbo a peut-être gagné sur le plan judiciaire, mais sur le plan politique, le RHDP a gagné. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah oui, ce qu'il dit, c'est pas faux, c'est pas faux. Comme il vient de le dire, sur le plan politique, le RHDP gagne. Bah, sur le plan juridique, c'est Laurent Gbagbo qui a gagné. Mais pour moi, je vais pas si je vois pas les choses de cette façon pour moi. Moi, la seule chose auquel je voulais intervenir, c'était pour dire à tout le monde, personne n'a gagné. Parce qu'il y a eu plus de 3000 morts. On dit 3000 morts, il y en a plus. Il y en a plus de 3000 morts. Donc, où on parle de plus de 3000 morts, c'est des familles antérieures. Il n'y a pas de victoire. C'est que des pertes en vie humaine. Parce que ces personnes pouvaient apporter peut-être demain des plus à la Côte d'Ivoire. Donc c'est la Côte d'Ivoire entière qui paie. C'est la Côte d'Ivoire entière qui paie.
Ni donc, vainqueur, moi, ni vaincu, vous dites.
Il n'y a pas de vaincu ni vainqueur pour moi. Parce que c'est des enfants, c'est des parents qu'on a perdus. 3000, plus de, on dit 3000, c'est plus de 3000 morts. C'est plus de 3000 morts. C'est juste une estimation comme ça on a fait. Mais c'est loin de tout cela.
Et est-ce que la page de cette crise post-électorale est tournée, Mohamed, selon vous?
Ça peut jamais tourner parce qu'il y a des plaies qui seront jamais, jamais, jamais finies. Donc, pour moi, c'est juste que chacun met un peu d'eau dans son vin parce que cette vie n'est pas éternelle. Il y a des gens qui ont été les chefs de guerre aujourd'hui. Son Ouattara, il est où? Il est où aujourd'hui? Est-ce que Ouattara, il aurait su que tout ça, ça allait se passer derrière lui? Pour lui, il faisait ce combat, il se disait quoi? Je suis là éternellement. Aujourd'hui, il est où? Tous ceux qui sont en train de mener ce combat aujourd'hui, ils seront où demain? C'est la question qu'on doit se poser. Notre vie n'est pas éternelle. Donc, à un moment donné, on doit s'asseoir pour se dire que tout ce qu'on fait, il faut qu'on laisse des bonnes traces derrière nous. C'est ça le plus important. Tu ne vas pas tuer pour un pouvoir. Tu ne vas pas tuer pour une vie que tu sais que tu sais ne serait pas éternelle. Donc, ce que moi, je peux dire à tous les frères, mettez un peu d'eau dans nos vins et on se dit qu'on est tous des fils d'un même pays et on n'a qu'à faire la politique autrement. On fait la
mettons politique autrement, c'est mieux. L'eau. dans notre vin de palme, j'ai envie de dire, Mohamed. Merci beaucoup de votre intervention. Mohamed, bonne journée à vous. 33 1 55 07 58 00, c'est la libre antenne dans le journal des auditeurs. Venez nous parler du sujet de votre choix. On continue de parler de la Côte d'Ivoire avec Vincent et dans un instant Amani. Vincent, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Vincent, bienvenue dans le journal des auditeurs. Venez entendre Mohamed qui disait voilà, il faut mettre chaque, que chaque camp, malheureusement on parle encore de camp, mettre de l'eau dans son vin. Vous êtes d'accord avec cela?
Oui, c'est dans ce sens-là que je voulais aborder Stéphanie. Vous savez, tout le monde a perdu quelqu'un. Et moi aujourd'hui, je voulais dire à tous les Ivoiriens et surtout au président de la République de prendre, de mettre toutes les mesures en œuvre pour que le président Gbagbo puisse rentrer tranquillement pour apaiser le cœur. Vous voyez, il a déjà
été condamné. Vous êtes favorable, Vincent, est-ce que le président Alassane Ouattara, finalement, fasse une amnistie ou une grâce à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé pour leur permettre de rentrer sereinement?
Bien sûr, Stéphane, regardez. En Côte d'Ivoire, tout le monde a perdu quelque chose. Bédé a été chassé par coup d'État. Guy Robert est décédé. OK, Gbagbo a joué sa partition. On peut dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, si le président Ouattara est au pouvoir, c'est parce que, quelque part, Gbagbo, il a fait des concessions, il a fait beaucoup de concessions. Le monsieur, il a déjà passé 10 ans à la haie. Je pense qu'il a payé. Vous voyez, le président Ouattara aussi, il a été fatigué. Le corps de sa mère a été déterré, vous savez, Stéphanie. En Afrique, la mère, elle est très importante. Le monsieur, sa mère, ils ont déterré le corps de sa mère. Ça fait très mal. Ça veut dire que tout le monde a subi des préjudices. Mais aujourd'hui, regardons dans la même direction. Karim a raison, le président il a raison. Regardons dans la même direction et allons à la paix, allons à la réconciliation. Monsieur le président, c'est vrai. Tout le monde a subi des choses. Le président Gbagbo, c'est vrai qu'il a été acquitté là-bas, mais il est condamné en Côte d'Ivoire. Pardonnez. Prenez une loi d'amnistie, comme pour Simon Gbagbo. Laissez-le rentrer à Blé Goudé. Faisons la paix. Parlons-nous. Unissons-nous et allons vers l'avant. Seul, on va plus vite, mais unis, on va plus loin. C'est cet appel que je vais lancer à la Côte d'Ivoire et lancer à tout le peuple africain. Les gars, merci. Allons vers la paix, allons, regardons devant nous. Merci Stéphane, c'était ma contribution. J'espère que ça passera, Inch'Allah.
Vincent, je vous informe, si vous n'êtes pas au courant, vous êtes en direct, donc c'est passé, vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Vincent, de votre contribution. Je demande à Inoussa de patienter un petit peu. Inoussa, on reviendra sur l'actualité du Niger avec lui. Vous êtes nombreux à vouloir encore réagir à l'acquittement de Laurent Gbagbo. On en reparle avec Amani. Bonjour.
Oui, bonjour, madame.
Bonjour, monsieur Amani, bienvenue. Hein. Oui, on vous entend très bien, Amani. Bienvenue dans le journal des auditeurs. Cet acquittement, pour vous, tourne-t-il la page de la crise post-électorale?
Alors, ça dépend. Je vais aller très, très, très rapidement. Alors, est-ce que cet acquittement tourne la page de la crise de la Côte d'Ivoire? Non, pas en totalité. C'est-à-dire qu'il y a eu deux parties belligérantes, d'accord? Il y a une partie qui a été jugée et qui a été acquittée. Alors, forcément, il y a eu 3000 morts. Et ces 3000 morts ne sont pas tombés d'un claquement de doigts, madame. Soyons sérieux. D'accord. Donc il y a une deuxième partie qui est là, qui doit aller expliquer. Donc il faut qu'on trouve, il faut qu'on sache qui a tué ces 3000 personnes, ou comment c'est arrivé, ou la faute vient de qui. Voilà. Donc ça, c'est pour moi, il est important, d'accord, que le camp adverse aille répondre aussi, aille dire, voilà, on a posé la question à la première, on n'a pas trouvé de faute. Alors la deuxième vient s'expliquer, et à partir de là, je pense que quand cette partie sera réglée, eh bien on sera tous d'accord que cette page-là, on la tournera. Par contre, je vais terminer très rapidement en rebondissant sur deux choses absurdes que j'ai entendues hier, et j'étais outré. Franchement, vous avez deux auditeurs des spécialistes du RHDP, je ne vous dirai pas les noms, mais je pense que vous en doutez un petit peu. Alors, qui disait hier que cet acquittement a un goût de... alors, qu'est-ce qu'ils ont dit là? Ils ont dit que ça n'avait aucun sens, c'était un non-événement, voilà.
Un non-événement, voilà.
Exactement, c'est le mot qu'ils ont utilisé. Mais si, je suis désolé, alors, soit ils ne savent pas ce qu'on appelle un événement ou un non-événement. Bon, on les connaît, les RHDP, hein, je ne vais pas faire des dictages, mais voilà. C'est un événement majeur parce que ça rentre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le 31 mars 2011 rentre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ces deux hommes ont été acquittés et ça, c'est gravé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, madame. Donc, on ne peut pas dire que c'est un non-événement. Et une chose absurde aussi que j'ai entendue, ils disaient que le fait d'avoir remis les passeports, ils étaient sûrs que ces deux personnes, ces deux personnalités seraient acquittées. Mais enfin, c'est incroyable d'entendre des choses comme ça. C'est absurde. Ça fait tellement longtemps que j'écoute cette émission et que j'entends ces gens-là. Je me dis, mais c'est pas possible. On ne peut pas réfléchir comme ça. Ça dépasse
d'autant que vu les réactions nombreuses, on se rend bien compte à quel point cela est un événement. Amani, moi je voulais vous avoir à votre regard. Vous disiez il faut que l'autre camp aussi rende des comptes à la justice. On a vu, on en a parlé sur cette antenne. Un procès s'est ouvert à Douai-Coué concernant les massacres qui ont eu lieu en 2011. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Beaucoup de Comzone, le nom de Comzone a été cité, mais ce n'est pas eux qui sont mis en accusation. Qu'est-ce que vous pensez de ce procès qui se déroule à Douai-Coué?
Bah écoutez, moi je parle déjà de d'entrée de jeu. Alors c'est à peu près une aberration de prendre un monsieur, un criminel, excusez-moi, j'utilise le mot, il est un peu fort, mais voilà, c'est comme ça qu'il est présenté sur on va utiliser ce mot-là, de prendre un criminel, d'accord, de quartier ou de village, pour le présenter devant une cour, devant une justice. Mais les grands criminels sont là. Il a cité certains Comzone, d'accord, mais ces Comzone-là, il faut qu'ils viennent répondre. Et eux, ils vont citer d'autres personnes, parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, cette crise-là, ça va loin, madame, ça nous dépasse tous. D'accord. Donc si on veut rentrer dans les détails, on ne s'en sortira pas. Donc moi, j'attends honnêtement, de la part des autorités, même si j'ai pas vraiment confiance dans cette autorité, j'attends de la part des autorités que cette histoire-là de ce rebelle-là, en tout cas, qui a été présenté à la cour, que ça aille plus loin. Et d'ailleurs, je vais rappeler un truc très intéressant pour terminer. Ce rebelle-là a dit qu'il ne voulait pas être jugé en Côte d'Ivoire, il préférait aller à la CPI. C'est impressionnant quand même d'entendre des choses comme ça. Il y a 10 ans, loin de nous, on aurait entendu une phrase pareille. Il préfère aller à la CPI. Mais on le sait tous, si ce rebelle-là va à la CPI, mais c'est l'hécatombe totale en Côte d'Ivoire, le gouvernement et toutes les multinationales, etc., tous ceux qui ont la main noire dans cette histoire. Donc ça serait catastrophique. Donc je pense pas, très honnêtement, pour terminer, je ne pense pas que ça puisse produire quelque chose de... Voilà, je pense que c'est juste...
Vous n'attendez rien de ce procès concernant le massacre de Découy, on l'entend bien. Merci beaucoup Amani de votre participation. Bonne journée à vous. On nous reste à peine 30 secondes. Inoussa, je suis désolé, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Inoussa. Vous avez à peu près 30 secondes. Vous voulez j'imagine parler un peu du Niger? Vous attendez quoi de cette investiture du président Mohamed Bazoum?
Et de toutes les façons, l'investiture du président Bazoum, elle est illégale parce qu'il n'a pas gagné les élections. Donc, ça démarre mal pour le Niger parce que les gens savent que Bazoum n'a pas gagné les élections et la Cour constitutionnelle n'a pas donné les preuves objectives de sa victoire.
C'est très clair. Merci, on aura l'occasion d'en reparler Inoussa, j'imagine, la semaine prochaine, vous l'entendez, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de votre participation. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer des messages sur notre page Facebook, facebook.com/journaldesauditeurs, ou à également laisser des messages sur le répondeur. Le numéro du répondeur, c'est le 33 1 55 07 58 05. Je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute d'Africa Radio. À bientôt.